Chapitre 16 L'heure tragique. De nouveau, le vieillard se laissa choir, plus écrasé cette fois par l'atroce fatalité qui semblait se complaire à asséner sur ses cheveux blancs des coups terribles. Après avoir compati au malheur de ce brave homme, après l'avoir réconforté, on le conduisit auprès de Madame Castagnier. Puis les magistrats, pris par leur devoir, poursuivirent leur enquête. Après l'interrogatoire des employés de la banque, le juge d'instruction fit appeler devant lui les domestiques de M. Castagnier. La déposition du valet de chambre offrit seule de l'intérêt. Elle était grave, en effet, car elle confirmait un des points les plus importants de cette affaire et achevait, pour ainsi dire, la déposition aussi accablante qu'inconsciente, en somme, faite par Jeanne Castagnier. Il se trouvait établi, par l'enquête d'une façon à peu près certaine, que l'assassinat du banquier et de sa fille Irma avait dû être accompli entre 5 et 6 heures. Or, le valet de chambre déclara avoir ouvert la porte des appartements qui donnaient sur l'escalier privé menant au bureau de M. Castagnier vers 5h30 à M. Charles. Le valet de chambre, bien entendu, ne connaissait rien de la déposition terrible de Mademoiselle Jeanne. Ces déclarations, coïncidant avec celles de la jeune fille, devenait extrêmement grave. Lui non plus ne soupçonnait pas, en donnant ses renseignements au magistrat, la portée terrible de ses paroles. Il n'avait contre M. Charles, d'ailleurs, aucun motif de haine, aucune arrière-pensée de vengeance. Au contraire, M. Charles, très bon, très généreux, était généralement aimé de tout le personnel. « J'ai ouvert, dit-il, la porte à M. Charles vers 5h30. J'ai vu, à l'air de M. Charles, qu'il avait quelque chose. Il marchait à grands pas, la tête baissée. Et quand je lui tendis son pardessus, il enfila la manche si violemment qu'il accrocha la doublure avec son bouton de manchette et qu'il proféra un juron de colère. Il avait une telle hâte de s'en aller qu'il cogna son chapeau contre la porte en le mettant et ne prit pas sa canne que je lui tendais. « Ah !» fit M. de Cabestan, « il ne prit pas sa canne. Oh, M. Charles est descendu comme en courant. Vous n'avez pas suivi sa descente dans l'escalier ? Non, monsieur le juge. Alors j'ai mis la canne au râtelier et j'ai repris mon service. » C'est tout ? Tout, oui, monsieur le juge. Je me suis remis à mon service et j'en ai été arraché, comme tout le personnel, un peu plus tard, par les cris et les appels qui venaient du bureau et la découverte du crime. C'est tout ce que vous avez à nous dire ? Oui, monsieur le juge. Martin Dumas intervint. « Pardon, dit-il à M. de Cabestan, voulez-vous demander au déposant si, quand il est sorti de l'appartement, M. Charles avait ses gants ?»« Oh non, monsieur, répondit le valet de chambre, M. Charles avait les mains nues. »« C'est bien, merci. » Le juge d'instruction congédia le valet de chambre. Martin Dumas, toujours impassible, écouta cette déposition avec le plus grand intérêt, sans que rien sur sa physionomie pût laisser voir ce qu'il pensait. « Cette déposition est accablante pour M. Charles, » dit M. de Capestin. « Est-ce votre avis, Dumas ?»« Mais il faut voir. » Cette sortie furieuse du fils du banquier, cette colère dénote un esprit affolé, un homme poussé à bout, marchant aux pires décisions. Peut-être bien, mais Il faut voir. Mais ce refus de prendre sa canne est à mon sens des plus graves. Pourquoi? Parce que M. Charles ne voulait pas se charger d'un objet encombrant. Déjà le crime hantait son esprit. Il voulait garder ses mains libres pour le mieux accomplir. Et le chef de la sûreté ajouta, et ne pas laisser traîner ensuite sur le lieu du crime une preuve de son passage. Martin Numa sourit. Oh, il avait cependant son chapeau cabossé, qui aurait pu se séparer de lui pendant la lutte contre ses victimes et demeurer sur le fameux théâtre du crime. Vous ne croyez pas que le fait de n'avoir pas pris sa canne soit un indice? Non. Mais cependant, ce qui me paraît plus intéressant que tous ces détails, c'est la déclaration de l'heure. 5h30. Voyons. Monsieur Charles est parti comme un fou. Il descendit donc rapidement l'escalier. 2 étages à cette allure, sans vouloir établir un record, sont franchis en quelques minutes. Parfaitement. Monsieur Charles est sorti de la maison? Parbleu. Mais le concierge l'a certainement vu passer. Monsieur Charles n'a pas traversé les bureaux. Il aurait été aperçu. Il est donc sorti par la porte privée de Monsieur Castagnier, sur laquelle donne cet escalier. En effet, mais cette porte est toujours fermée. L'huissier la lui a par conséquent ouverte pour qu'il puisse s'en aller. Pas nécessairement. Donc nous devons demander à cet huissier à quelle heure il a ouvert la porte à Monsieur Charles. Il peut nous dire l'heure à quelques minutes près. Et nous saurons si oui ou non M. Charles s'est arrêté dans l'escalier, par conséquent chez son père. Très juste, oui, faites venir l'huissier. C'était un personnage à allure importante, gros, majestueux, qui, lorsqu'il avait la chaîne d'argent au cou, n'était pas loin de se croire un personnage. Sa déposition fut solennelle et pompeuse. « J'étais, déclara-t-il avec emphase, l'homme de confiance de M. Castagnier. Nul n'entrait chez lui, il ne sortait de la maison sans que je l'aie vu. » « Parfait, donc vous avez vu sortir M. Charles. »« Oui, monsieur le juge, c'est moi-même qui ai tiré le cordon et je lui ai ouvert. » Et pouvez-vous me dire quelle heure il était? Oh, presque à la minute. 5h30 venait de sonner. Les magistrats se regardèrent. Leurs yeux se tournèrent ensuite vers Martin Numa. Martin Numa, lui, semblait en dehors de ce qui se passait autour de lui, ne rien entendre et contemplait avec une extrême attention la Crémone de la croisée. C'était longtemps avant que n'arriva jusqu'à vous les cris qui apprenaient le drame horrible. Oh, certainement, messieurs, plus d'une demi-heure. Et dans l'intervalle, vous n'avez plus ouvert la porte à personne? Pardon? À qui? À monsieur le marquis? M. de Cabestan et le chef de la sûreté tressaillirent. Ah, monsieur le marquis Primo Santucci ? S'écrièrent-ils. Au futur gendre de M. Castagnier, oui, messieurs. Vous en êtes bien sûr ? Je ne me trompe jamais, déclara l'huissier en étendant le bras. M. de Cabestan reprit. J'insiste sur ce point parce que M. de Santucci nous a déclaré n'être venu qu'après 6 heures, alors que déjà le crime était connu. C'est juste, monsieur le juge. J'ai ouvert la porte à M. le marquis alors que la maison était en émoi, que nous connaissions tous le drame. Oh, il était près de 7 heures. Mais comment, vous avez donc ouvert 2 fois la porte au marquis? Deux fois, oui, parfaitement. Non, je vous demande encore de bien préciser ce point. Êtes-vous bien sûr, absolument sûr, d'avoir deux fois ouvert la porte au marquis Santucci? De nouveau, l'huissier, solennel, étendit la main. Mais je le jure, fit-il. J'étais l'homme de confiance de M. Castanier, et je remplissais consciencieusement mon devoir. Personne n'entrait ici sans passer sous mes yeux. Mais cependant, pour que vous ayez ouvert une première fois, puis une seconde fois, la porte au marquis Santucci, il faut qu'entre ces deux entrées, le marquis soit sorti. Oh, je l'ignore. Vous avez dû lui ouvrir la porte pour qu'il puisse sortir. Non, je ne l'ai pas ouverte et je n'ai pas vu sortir monsieur le marquis. Mais cela devient incompréhensible. Pour entrer deux fois, il faut sortir au moins une fois. Je dis, messieurs, ce que j'ai fait et je ne cherche pas d'autres combinaisons. Je parle devant la justice de mon pays et je continue à remplir devant vous la mission de confiance dont mon maître d'avant m'honorait. C'est très bien. J'ajoute que, au cri de Ah, l'assassin, qui ont été poussés en haut, je me suis précipité, comme mon devoir l'exigeait, au secours de qui appelait, et ma femme me suivit. Et donc, pendant ce temps, la loge demeura vide. Oh, quelques instants seulement. D'ailleurs, la porte était fermée. Personne ne pouvait entrer dans la maison. Ni en sortir? L'huissier hésita. Ni en sortir, à moins d'aller prendre pour son propre compte mon office et ouvrir pour soi la porte. C'est bien, merci, vous pouvez vous retirer. Solennel, l'huissier quitta la pièce d'un pas majestueux et lourd. Un citoyen venait de sauver l'État. Il n'aurait pas eu plus de gravité. Et il retourna à son poste de confiance auprès du cordon. Quand ce portier, aux allures de ministre plénipotentiaire, fut sorti, il y eut dans la salle un silence profond. Plus encore que tout à l'heure, les magistrats se regardaient. L'anxiété la plus grande était peinte sur leurs visages. Cette fois, Martin Dumas avait sur les lèvres un sourire. Il regardait encore la croisée, mais semblait n'attendre qu'une pareille prétexte pour tourner la tête vers le bureau derrière lequel M. de Capestin, le chef de la sûreté, se tenait palpitant d'angoisse. Pendant quelques secondes, le juge d'instruction attendit que le chef de la sûreté parlât, et M. Ramar, de son côté, guettait les paroles de M. de Capestin. Ni l'un ni l'autre n'osait parler le premier. Martin Dumas, de son air sans cesse détaché des choses de ce monde, lui attendait. Enfin, M. de Capestin, sans toutefois se compromettre en émettant une opinion, prit la parole. Eh bien, mon cher Dumas, fit-il, que pensez-vous de ce que nous venons d'entendre? Question habile qui devait le tirer d'embarras, mais il valut une réponse des plus fâcheuses. Mais je suis de votre opinion, dit Martin Dumas. Mon opinion, s'écria le juge d'instruction, j'en ai pas d'établi encore. Moi non plus. Vous avez cependant entendu. Oui, vous aussi. Oh, je vous en prie, nous sommes M. Ramar et moi dans la plus grande perplexité, vous le voyez bien. Aidez-nous à débrouiller cette affaire. Résumons donc. Charles Castanier quitta l'appartement de ses parents en fureur, sans vouloir reprendre sa canne, sans ses gants, vers 5 heures et demie. Le concierge ouvre la porte quelques minutes après. Il faut voir si, dans ce laps de temps, d'ailleurs difficile à évaluer, il a été possible à Charles Castanier d'entrer chez son père, de le voler, de le voir mourir et d'attendre sa sœur Irma pour la tuer. Oui, très juste. D'un autre côté, le concierge prétend avoir ouvert la porte une première fois à 6 heures au Marquis Santucci et une seconde fois à 7 heures. Il faut de ce côté voir si, dans cette affaire, Monsieur Santucci est venu une première fois, puis s'il est sorti, et s'il est enfin revenu à 7 heures, quand le deuil emplissait la maison. En effet, allez, faites venir le marquis, dit le chef de la sûreté aux agents. Monsieur Santucci, mandé, pénétrait peu après dans le bureau. Excusez-nous de vous déranger, lui dit Monsieur de Cabestan, mais nous voudrions savoir, pour mieux fixer le moment où le crime a pu s'accomplir, à quelle heure exactement vous êtes revenu. Le marquis écoutait très attentivement. Il eut à cette question un léger tressaillement, mais il demanda aussitôt: Pardon, monsieur le juge, vous me demandez si j'ai bien compris à quelle heure je suis revenu dans la maison? Oui, c'est cela, en effet. Mais cela indiquerait que j'aurais pu être déjà venu une fois. Sans doute. Vous supposez donc que je suis venu 2 fois chez mon beau-père dans la journée, peut-être bien dans la soirée du crime. Mais, oh non, je puis vous dire que je suis venu à peu près exactement à 7 heures, mais que c'était la première fois. La première fois. Oui, je devais venir en effet plus tôt, mais j'ai été retenu au dehors et m'apprêtais à m'excuser auprès de ma fiancée de n'avoir pas pu, comme je m'y étais engagé, venir prendre le thé avec elle vers 5 heures et demie. Et là, je n'avais plus de pardon à obtenir, mais des larmes à verser. Le marquis acheva sa phrase dans un sanglot et cacha ses yeux dans son mouchoir. Vous n'êtes donc venu qu'à 7 heures? Oui, à 7 heures, parfaitement, pour dîner, avant d'aller, comme il était convenu, au théâtre. Eh bien, c'est que l'huissier prétend vous avoir ouvert la porte une première fois à 6 heures. À moi? S'écria le marquis vivement. À moi? Mais il m'a ouvert la porte une première fois à 6 heures? Il vient de nous le déclarer affirmativement. Cet homme se trompe. Il est dans l'erreur absolue. Il n'a pas pu m'ouvrir la porte une première fois à 6 heures, puisque je suis venu qu'à 7. C'est impossible, absolument impossible. Il va le dire lui-même devant vous. Faisant un signe à son secrétaire, faites revenir l'huissier. Martin Dumas intervint aussitôt. Inutile, monsieur le juge, dit-il. Tout à fait inutile. Nous ne pouvons mettre en doute la parole de monsieur Santucci et opposer son affirmation à la déposition de l'huissier. Le marquis avait tourné vivement les yeux vers le détective qui parlait tout en s'adressant naturellement au juge d'instruction, sans paraître étudier celui qu'on interrompait. L'huissier, reprit alors le marquis, a certainement déposé en toute sincérité, en toute loyauté, cela ne fait pas de doute, mais il s'est trompé. Et c'est tout naturel, reprit Martin Dumas, dans ce désarroi, dans ce trouble, dans cette émotion. Il est probable que le pauvre homme a eu la cervelle un peu brouillée, ses souvenirs sont en capitulade. C'est cela. Il a en effet l'habitude de me voir venir vers 5 ou 6 heures. Et il a cru que vous aviez fait de même cette fois. Or, comme il vous a ouvert à 7 heures, il croit m'avoir ouvert la porte 2 fois. Voilà, voilà tout. Oui, Voilà tout, conclut très sérieusement Martin Dumas. Le marquis reprit. D'ailleurs, admettant que je sois venu à 6 heures, où serais-je allé pendant tout ce temps? Je serais tout naturellement monté chez Madame Castanier, où l'on m'attendait. Je ne me serais pas attardé 1 heure dans l'escalier. Oui, c'est certain. Et pourquoi ensuite serais-je sorti? D'ailleurs, pour que je puisse sortir, l'huissier devait m'ouvrir la porte, il m'aurait vu. Exact. Donc, puisqu'on ne m'a pas vu chez Madame Castanier à 6 heures, puisque je ne pouvais, et pour cause, me trouver chez mon malheureux beau-père, et qu'il m'était impossible de me tenir pendant tout ce temps dans l'escalier, sans but, c'eût été grotesque. Et puisqu'enfin l'huissier ne m'a pas vu sortir, il est évident, clair, indubitable, que je ne suis pas venu comme il le croit vers 6 heures. L'huissier est un brave homme, mais il commet une erreur. Nous en sommes persuadés, déclara le juge d'instruction. Au surplus, afin de mieux établir ce point, des plus importants que je n'ai vu venir à 6 heures, veuillez faire comparaître le prince Ramolino, mon ami avec qui je me trouvais précisément à ce moment. Le prince Ramolino m'a accompagné lui-même dans sa voiture jusqu'ici à 7 heures. Il pourra vous le certifier. Mais votre parole, monsieur, nous est plus que suffisante. Merci. Le marquis salua et, épongeant ses yeux, se dirigea vers la porte. À ce moment, un agent vint dire au juge d'instruction que quelqu'un demandait à être entendu. Faites entrer, dit M. de Cabestin. On vit apparaître un petit homme à mine fleurie, au ventre rebondi sur de courtes jambes en cerceau. Il portait un pardessus noisette sur une jaquette bleu marine, difficilement boutonné sur un gilet de velours grenat, sur lequel flottait une large cravate violette à pois blancs. Il affirma son salut de quelques mots prononcés d'une voix de ténor, avec un accent chantant des plus caractéristiques. Salut, messieurs de la cour, salut, je suis Bessette. Comme on le regardait, non sans étonnement, il claironna, surpris de son côté de voir son nom ne pas produire l'effet sur lequel il comptait. Bessette, l'ami Bessette de Béziers. Bien, monsieur Bessette, dit le juge d'instruction, vous avez des déclarations à nous faire? Oh, s'il en est des déclarations, mais des temps, des montagnes. Vous avez des soupçons, vous connaissez l'assassin? Ça, non, pardieu. C'est justement ce que je viens vous demander, le nom du coquin qui a pu commettre ce crime. Bien, nous le cherchons. Or, comme nos instants sont précieux, si vous n'avez rien à nous apprendre qui se rapporte à ce drame. Oh, je vous demande pardon, monsieur le juge. J'ai peut-être beaucoup à vous apprendre. Ah, dans ce cas, asseyez-vous. Pouvez-vous obéir, parce que je ne suis pas fatigué, bien que j'arrive d'un peu loin, de là à Louvain, mais j'étais le pays de bus qui m'a descendu devant la porte. C'est ce matin que j'ai appris le malheur, et quand j'ai fini mes courses, même sans les finir tout à fait, alors je suis accouru chez ce pauvre monsieur Castanier. Celui que je connais depuis que j'étais tout petit. Monsieur Castanier et mon père étaient des amis intimes, ainsi que cet excellent papa Morrison. Nous sommes du même pays, ou à peu de choses près. Eux, ils sont des environs de Toulouse, moi de Béziers, vous voyez. Le juge d'instruction, devinant dans cet homme le méridional dans toute sa loquacité implacable, s'apprêtait à le congédier, Mais sur un signe de Martin Dumas, il se disposa à écouter patiemment l'ami Bessette.